Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette libre antenne du samedi soir. Ce moment particulier et intime où Europe 1 vous donne la parole pendant 2 heures. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et pour la prendre cette parole, vous m'appelez au 39 21 et je vais vous faire une petite place à côté de moi dans ce studio. Venez me parler de vos soucis en famille ou au travail, de vos histoires d'amour ou de rupture, venez partager ce qui vous préoccupe et vous touche. Parmi les sujets qu'on n'a pas abordés depuis longtemps, il y a par exemple les grossesses multiples, la vie avec des jumeaux, des triplés ou pourquoi pas plus. Venez raconter ça aussi ce soir, si vous en avez envie. Et si vous avez envie de participer par SMS, de réagir à ce qui se dit, d'apporter du soutien, vous tapez le 739 21 suivi du mot nuit et de votre message. Il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison, dit Thomas d'Ansembourg. Alors gardons à l'esprit que le but d'un dialogue n'est pas de chercher à avoir raison, et de chercher à se comprendre pour mieux comprendre l'autre. Parce que quand on commence à comprendre pourquoi l'autre agit comme il agit, alors on voit les choses autrement et on les gère plus facilement. Toute l'équipe de la Libre Antenne du week-end est là pour vous ce soir. Cindy et Nicolas au standard, Julien à la réalisation. Alors, soyez les bienvenus.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et celle qui ouvre le bal ce soir, c'est Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Sabine, merci de me recevoir et de m'écouter.
Avec plaisir Elisabeth, je crois qu'on se connaît. Hein.
Oui, on se connaît. J'ai le cancer depuis, maintenant j'entame ma 3e année.
Oui.
Mais il s'est produit un événement que pour l'instant je n'arrive pas à gérer. J'ai été hospitalisée en novembre... pendant 3 semaines, et bon, mon anniversaire a eu lieu à l'hôpital le 13 novembre, et le soir même, j'ai mon gendre qui a été hospitalisé d'urgence dans la même clinique où je me trouvais. Mais personne n'a rien dit, mais dimanche soir, j'ai su que mon gendre était dans cette clinique.
Comment vous l'avez su ?
Par mon mari.
Ah oui, donc on vous l'a dit quand même.
Oui.
Oui.
À un moment donné, il fallait bien qu'il me le dise. Hein.
Mm-hmm.
Et du coup, il a été hospitalisé et lui, il a un cancer foudroyant du pancréas.
Voilà. C'est un monsieur qui a quel âge ?
La 50aine.
Oui, donc très jeune encore.
Et le problème... Oui.
J'imagine que ça vous a beaucoup touché, beaucoup affecté.
Ah mais j'ai perdu les pédales. Bon, lui, il est en fin de vie, là.
Il n'y a aucune chance, c'est ce que lui ont dit les médecins ?
Non, non. Il a vu le plus grand professeur. Il est en fin de vie, il ne mange plus. Il est sous pompe à morphine à la maison. Bon, là, il est rentré, il est en hospitalisation à domicile. Mais bon, mon mari, ma plus jeune fille, ils font un relais pour qu'il ne soit pas seul parce que ma fille qui doit travailler quand même.
Vous voulez dire celle qui est son épouse ?
Oui.
Oui.
Et elle veut travailler. Il faut qu'elle travaille parce qu'elle va nous perdre les pédales aussi.
Oui, ce que j'allais vous dire, elle peut demander un congé spécial, mais j'imagine que si elle vous dit qu'elle a besoin de travailler, c'est qu'elle doit s'accrocher à quelque chose, quoi.
Oui, elle a besoin. Bon, on essaye de faire un roulement tous les jours. Bon, on ne sait pas s'il va rester à la maison. Bon, moi, je serai réhospitalisée aussi. Et je me dis, on va se retrouver tous les deux dans le même service. Mais lui, en fin de vie, et moi, moi je ne sais pas, parce que moi, mon cancer, il évolue.
Alors, racontez-moi où vous en êtes, Elisabeth. Quand vous m'avez appelée, vous en étiez où à l'époque, quand on s'était parlé ?
Ben, j'avais été opérée 4 fois du côlon. J'ai 2 stomies. Mmh. Et là, je fais de la radiothérapie, chimiothérapie, et ben, ça ne fonctionne pas.
Chimio et radio ensemble ?
Oui. Ah. Tous les jours.
Oui, la radio, c'est tous les jours 10 minutes, c'est ça ?
Oui, mais la chimio aussi tous les jours.
Et la chimio aussi tous les jours, hein, d'accord.
Oui, oui.
Donc ils y vont très très fort, là, ils attaquent de tous les côtés.
Oui.
Ouais.
Et mais bon, pour mon moral, j'ai le moral, je suis une battante, donc j'essaye de surpasser, voilà... De temps en temps, je pleure un peu, mais voilà, je prends sur moi beaucoup. Mais le problème, c'est que mon gendre, avec ma fille, bon, il le sait qu'il est en fin de vie. Hein.
Oui.
Il est un peu agressif. Bon, et c'est pas son tempérament, c'était pas du tout son tempérament.
J'imagine qu'il a peur.
Oui, il a peur.
Bien sûr. Et votre fille, elle passe par quel stade là, en ce moment ?
Bah, écoutez, on essaye de la soutenir comme on peut. Mm. Pour l'instant, bon, elle est au courant hein, qu'il est en fin de vie. Elle le voit. Il a perdu 30 kilos. C'est en 2 mois, hein, depuis le 13 novembre, ça a commencé.
C'est terrible quand c'est foudroyant comme ça.
Oui.
Et ce qui est terrible pour vous, c'est que ça vous met en face de quelque chose que vous n'avez pas besoin de voir en ce moment, quoi.
Oui, voilà. Mais je l'ai vu, d'abord, je ne voulais pas le voir, mon gendre, parce que je me suis dit, je vais être choquée.
Oui.
Et lundi, cette semaine, on avait rendez-vous en même temps en chimiothérapie. Donc, je suis allée le voir. J'ai pris sur moi.
Oui.
Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Parce qu'on s'entend, on s'aime toutes. Et je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Je vais le prendre sur moi. Et je vais le voir.
Mais vous aviez de bons rapports avant la maladie, tous les deux.
Comment ?
Vous aviez de bons rapports, tous les deux, avant la maladie.
Oui, oui, très oui. Bon rapport.
Donc, d'accord, c'est important, ça aussi.
On est une famille très fusionnelle.
D'accord.
Et du coup, je suis allée le voir. Il a eu un sourire, mais il m'a tenu la main. J'ai vraiment pris sur moi hein, pour ne pas pleurer devant lui, pour le motiver. Et alors, il m'a encore dit, on se bat ensemble. J'ai dit oui. On va se battre ensemble. Mais lui, il le sait qu'il est en fin de vie. Moi, j'essaye encore de me battre. Maintenant, il y a un autre souci. Il a un fils de 15 ans.
Qui est votre petit-fils ou pas du tout ?
Non, c'est pas mon petit-fils. Mais ma fille l'a élevé comme... je le considère comme mon petit-fils. Hein.
D'accord.
Mais il a 15 ans. Et il avait de très bons rapports avec son papa. Et maintenant, il ne lui parle plus. Il est chez eux, mais il ne parle pas à son père.
Quand vous dites maintenant, c'est depuis la maladie ?
Oui.
Mais là aussi, je pense qu'il doit être terrorisé, ce gamin.
Et comment on peut faire pour...
Est-ce que sa maman arrive à lui parler ou c'est trop difficile pour elle ? Auquel cas, il faudrait l'envoyer chez un pédopsie. Parce que là,
sa maman ne s'occupe pas réellement de lui. C'est ma fille qui s'occupe beaucoup de lui.
C'est-à-dire qu'il la voit quand même, sa mère biologique ?
Oui.
Il la voit à quel rythme ? Je veux dire,
tous les 15 jours.
Ah oui, d'accord. Donc il est quand même beaucoup plus avec sa belle-mère qui est votre fille.
Oui, voilà.
Mais est-ce qu'elle, elle peut, est-ce qu'elle arrive à mettre des mots sur ce qui se passe ? Parce qu'elle est quand même, j'imagine, aussi extrêmement bouleversée. Et qu'elle n'est peut-être pas la mieux placée pour rassurer cet enfant, cet ado.
Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Parce que je me suis déjà dit, est-ce que, parce qu'avec moi, il parle beaucoup. Mais on ne s'est pas encore revu depuis que son papa est malade. On n'a pas eu l'occasion de se voir.
Donc vous dites qu'on parle beaucoup, mais il ne vous a jamais parlé de son père.
Non, pour l'instant, on ne s'est pas vu depuis que son père est malade.
Je pense que ça serait bien que quelqu'un lui propose de demander s'il a envie d'en parler, s'il a besoin d'en parler. Pas avec des proches, parce que c'est très compliqué, surtout à 15 ans. Mais avec quelqu'un dont c'est le métier, de l'écouter. Il ne faut pas le laisser tout seul dans cette épreuve.
Oui. Bon, ma fille l'entoure, lui parle, mais avec son papa, c'est... Voilà, il n'arrive pas.
Je pense que oui, effectivement, il a pas les codes, il n'a pas le mode d'emploi pour aborder un monsieur qui est en fin de vie, qui se trouve être son papa en plus.
Oui.
Et la femme avec qui il vit, qui n'est pas sa mère, donc c'est vrai que ce n'est pas simple non plus comme situation. Même s'ils s'entendent bien, c'est pas sa maman. Donc les sentiments ne sont pas les mêmes.
Oui, mais sa maman ne s'est jamais vraiment réellement occupée de lui.
Oui, j'ai bien compris. Mais là, la situation est quand même extrêmement douloureuse pour tout le monde. Mais pour lui aussi, et peut-être pour lui plus, parce qu'à 15 ans, on ne sait pas qu'on est complètement démuni par rapport à ça.
Oui, c'est là qu'on a le plus besoin de son papa, quoi. Surtout pour un garçon. Pour une fille aussi, mais je trouve...
Et ça serait très important que quelqu'un lui explique qu'il faut qu'il parle à son père, sinon il va le regretter toute sa vie.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui lui pend au nez. S'il n'arrive pas à renouer un contact avec son papa avant son départ, ça va être très compliqué à gérer après. Et pour ça, il faut qu'il soit accompagné, et vite, par une professionnelle.
Ah, d'accord.
Vraiment. Je pense que peut-être vous pouvez passer par votre fille pour lui faire passer le message.
Oui, ça je ferai, de toute manière.
Qu'elle lui trouve rapidement un ou une psy ou pédopsie. Je ne sais pas, 15 ans, c'est un peu entre les deux, donc je ne sais pas si c'est encore des pédopsies. Probablement, oui, il n'est pas majeur. Donc,
Oui.
Mais quelqu'un qui peut l'accompagner sur ce qui lui arrive pour qu'il puisse... exprimer à la fois sa tristesse, sa colère et tout ce qu'il doit ressentir et qui doit être complètement bloqué, verrouillé en lui. Et la peur aussi.
Oui,
voilà. La peur d'aller voir son papa parce qu'il doit se dire « mais qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et qu'il comprenne vraiment à quel point c'est essentiel d'aller renouer avec son papa maintenant. Parce qu'après, il sera trop tard.
Oui.
Mais pour ça, il a besoin que quelqu'un lui prenne la main et lui explique comment ça fonctionne et l'aide. Et ça me paraît compliqué que ce soit quelqu'un de la famille, vous voyez, parce que vous êtes tous en train de souffrir de tout ça. Et vous, Elisabeth, je ne sais même pas où vous trouvez encore la force de vous battre pour les autres, en plus. C'est incroyable.
Ben, vous savez, on est tellement fusionnels que je me fais plus du souci pour lui que pour moi.
Oui, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. C'est comme si d'un seul coup, vous aviez fait un pas en arrière et que c'était lui le plus important.
Oui.
Ce qui n'est pas
par
le cas.
Rapport à ma fille.
C'est pas le cas. C'est peut-être plus urgent parce qu'effectivement, il est malheureusement dans un stade très avancé. Mais ce qui vous arrive est important aussi et vous êtes importante aussi.
Il ne
faut pas lâcher l'affaire. Vous ne lâchez pas l'affaire pour vous.
Non, je ne lâche pas l'affaire, mais bon, j'ai une très longue discussion avec mon oncologue parce que j'ai quand même. Parce que là, je fais de la radiothérapie, chimio. Et après, encore une fois, une grande opération. Et du coup, j'ai demandé à mon oncologue si vraiment ça sert encore que je me batte comme ça. Alors, il m'a dit que ça sera la dernière tentation parce qu'après, on ne saura pas, quoi.
Ils ne vous ont pas proposé l'immunothérapie ?
Non.
Non. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec
vous. Non, le problème, c'est que j'ai une maladie génétique. Je vous en avais déjà parlé. Et cette maladie génétique adore le cancer.
Ah. Donc le terrain, malheureusement, est propice à ça, quoi.
Oui, voilà. Et plus, plus j'avance, plus mes marqueurs ils montent, quoi. Et là, je commence à m'épuiser. Enfin, je suis épuisée. De toute manière, je suis épuisée. Disons, je me fais plus de soucis pour pour ma fille déjà, pour le gamin. Voilà.
Oui. Là, dans une situation comme ça, il va vraiment falloir vivre chaque jour l'un après l'autre.
C'est ce qu'on fait.
Parce que sinon, C'est une montagne à surmonter, évidemment.
C'est ce qu'on fait. On vit le jour.
Par priorité. Et là, où je vous rejoins, c'est que la priorité en ce moment, là, tout de suite, il me semble que c'est cet enfant, ce garçon.
Oui, c'est ça qui m'inquiète le plus aussi. C'est un très bon élève. Il est au lycée. Je me dis, est-ce qu'il va continuer à bien travailler, à réussir? Enfin, voilà, je me pose plein de questions.
Est-ce que vous vous sentiriez la force, vous, de lui passer un coup de téléphone?
Au gamin?
Oui.
Oui.
Alors, vous pourriez lui dire ce qu'on s'est dit ce soir, vous savez, tout simplement. Parce que de votre bouche à vous, vous avez un rôle important dans sa vie.
Oui, oui.
Et donc, de votre bouche à vous, ça peut être important aussi de lui dire, voilà ce que vous m'avez dit, qu'il faut qu'il renoue avec son papa et que quoi qu'il arrive, il faut qu'il continue, que son père soit fier de lui. Il a besoin d'entendre ces mots-là et puis de comprendre qu'il est essentiel qu'il y ait un dialogue tout de suite qui s'instaure entre eux.
Mm-hmm.
Qu'il puisse parler.
Mm-hmm.
Et je pense D'accord. que ça peut venir de vous. Si vous vous sentez la force de le faire, sinon vous pouvez passer par votre
fille. Non, mais mais j'avais déjà, mais on n'a pas eu l'occasion là pendant les fêtes. On voulait pas y aller parce que on avait peur du Covid.
Mais bien sûr.
Et ben on prend tous nos précautions là. Mais je me suis dit, est-ce que je vais l'appeler? Mais bon, on a des très bons rapports. J'ai aussi des très bons rapports avec le gamin, quoi.
Alors justement, profitez-en. Vous pouvez être importante pour lui.
Oui.
Parlez-lui sincèrement comme vous l'avez fait avec moi ce soir et dites-lui à quel point c'est important, pour lui et pour son père.
Oui, d'accord.
Parce que là, il est probablement en train de paniquer tout seul dans sa tête et de ne pas savoir quoi faire, quoi dire.
Oui.
Le deuil est déjà tellement compliqué pour nous, les grands, les adultes. Alors pour les jeunes, les ados, les enfants, ça l'est encore 10 fois plus.
Ah bah oui, oui, je sais.
On ne nous apprend jamais comment réagir face à ça. Malheureusement.
C'est pour ça que je me suis permise de vous rappeler.
Vous avez bien fait, Elisabeth. Et puis ça fait plaisir de voir que vous êtes là et que vous vous battez.
Oui, je me bats.
Même si j'entends que c'est à quel point c'est difficile, mais vous avez encore cette force, cette énergie-là en vous. Et ça, c'est beau.
Oui, ben, je continue toujours. Là, j'ai fait une vingtaine de bonnets pour des bérets, des bonnets... Voilà, alors je cuisine, pâtisserie, voilà, je fais tout ça encore. Hein. Mon mari me dit, mais comment tu fais? J'ai dit, si je reste couchée, c'est pas la peine.
Oui, je comprends. Vous en faites quoi de ces bérets, de ces bonnets?
Bah écoutez, je les donne à droite, à gauche, je les offre.
C'est adorable, ça.
Bon, j'aime la couture, le crochet, tous ces trucs-là, voilà. Et je m'amuse, ça me fait passer le temps l'après-midi. Alors je me mets la radio, mm-hmm. où j'écoute beaucoup de musique zen aussi en ce moment.
Oui, c'est important aussi ça.
Et je fais du crochet, je fais plein de bonnets. Là. Ma cousine, elle en a récupéré 5 ou 6, je crois. Et elle les donne aussi à droite, à gauche.
C'est sympa. Et je comprends, vous savez que c'est très thérapeutique ce que vous faites. Au lieu de rester dans son lit à ruminer, faire des choses pour les autres, ça occupe l'esprit.
Oui.
Et ça aide, ça nous aide aussi nous-mêmes.
Ben oui, exactement.
Et votre mari, il vous soutient? C'est quelqu'un de solide?
Oui, enfin ouais. Mon mari, là, il est vraiment perdu.
Ah oui.
Là, quand je serai hospitalisée, comme je serai suivie psychologiquement là, à l'hôpital, j'aimerais qu'il assiste, même s'il ne veut pas. Mais parce que quand il a appris pour son gendre, il s'est mis à pleurer. Il a dit, toi, tu es déjà malade. Maintenant, il y a lui qui est malade.
Ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup.
Et vous aimeriez qu'il assiste aux séances avec la psy?
Non, pas avec le petit, parce que... Bon,
avec la psy.
Oui.
Et oui. Et pourquoi vous aimeriez qu'il soit là pour être aidé lui aussi?
Oui, parce que même s'il me dit qu'il n'en a pas besoin, mais j'ai l'impression qu'il en a besoin. Je le vois en ce moment. Vous savez, il est stressé. Dimanche, malheureusement, je suis tombée. Et il n'était pas à la maison. Il s'est promené. On a un petit chien, un teckel. Et il a fait une grande balade avec lui. Et malheureusement, j'ai fait un malaise. J'étais par terre pendant trois quarts d'heure. Quand il est rentré, il m'a vu par terre. Bon, c'est pas son habitude, mais il m'a crié dessus. Et moi, j'ai paniqué. J'ai dit, j'ai rien cassé, je te promets. Alors, il me fait, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, je voulais juste prendre une casserole. Et j'ai eu un malaise. Et après, il s'est excusé.
Il a eu peur.
C'est la peur qui l'a fait réagir comme ça.
Bien sûr, c'est la peur. Et puis, je pense qu'il doit être, comme vous dites, il doit être extrêmement fragilisé en ce moment.
Ah ben oui.
Il a peur de quoi?
Oui, voilà.
Alors, vous avez raison pour la psy. Simplement, moi, je lui conseillerais plutôt d'aller voir quelqu'un de son côté, pas avec vous.
Parce ça, il ne fera pas, Sabine.
Ah là là, c'est dommage. Parce que vous comprenez qu'il ne peut pas, devant vous, dire sa peur, son mal-être et ses angoisses. C'est trop compliqué de dire ça devant vous. Et j'ai peur que s'il accepte de venir avec vous, ça soit juste pour rester assis dans un coin et qu'il ne parle pas.
Ou alors qu'elle le prenne à part.
Voilà, peut-être, oui. Avant ou après, mais en même temps, voilà. C'est autre chose, c'est une autre démarche. C'est pas pour lui à ce moment-là, c'est pour votre couple. Mais c'est compliqué pour lui de dire... Déjà, c'est compliqué pour un homme qui n'a pas envie spontanément d'aller voir un thérapeute, de parler. Mais en plus, si c'est pour parler de vous, devant vous, ça va être impossible pour lui.
Oui, d'accord.
Mais effectivement, c'est une bonne idée de proposer au thérapeute de lui demander si il ou elle accepterait de rencontrer votre mari avant ou après.
Oui.
Même de manière informelle, sans appeler ça une thérapie, en disant, voilà, monsieur, j'aimerais qu'on se parle un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut se voir un quart d'heure? Enfin, quelque chose de plus... qui peut ne pas l'effrayer, vous voyez?
Oui, voilà. Oui, oui.
Et vous, ça vous rassurait, j'ai l'impression aussi, hein, s'il était un peu pris en charge.
Oui, parce que en ce moment, c'est... Oh là là. C'est pas facile, hein.
Oui, ça fait beaucoup.
Mais bon, on va essayer. Bon, j'essaie de me battre. Bon, pour mon gendre, on sait. On s'attend tous les jours. Hein.
C'est pour ça que je pense que l'urgence, c'est vraiment que ce garçon renoue avec son père, très vite.
Oui, voilà, c'est très, ça. Très. Moi, c'est surtout le gamin qui me... Enfin, tout le monde m'inquiète, le gamin, ma fille, voilà.
Et pour l'instant,
J'aimerais leur aider, quoi.
Mais vous le faites, Elisabeth. Vous êtes en train de le faire. Mm-hmm. Et vous le faites très bien. Mm-hmm. Je pense que dès demain matin, vous allez pouvoir lui passer un petit coup de fil.
Oui.
Et lui faire comprendre qu'à quel point il est important qu'il parle, qu'il s'exprime et surtout qu'il aille parler à son père.
Oui, d'accord.
Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Après, ce sera trop tard. Tout le monde le sait.
Oui.
On ne peut pas faire comme si on ne savait pas.
Oui.
Aussi douloureux que ce soit, il vaut mieux l'affronter la tête haute en sachant ce qui se passe. Que d'attendre que ce soit fini pour pleurer après en disant j'aurais dû lui parler.
Oui.
Ça sera trop triste et trop dommage après. Et puis moi, je vais vous envoyer plein d'énergie pour vous.
Oui.
Des valises d'énergie. Vous en faites un stock.
Oui, Sabine.
D'accord.
Je vous remercie beaucoup et passez une bonne soirée.
Je vous embrasse très fort, Elisabeth.
Oui, moi aussi. À bientôt.
À bientôt. Donnez-moi de nouvelles. Au revoir.